Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous une réflexion sur un psaume. Psaume qui peut-être, ou sans doute même, fait partie de ceux qui sont les plus connus. Et peut-être que même certains d'entre vous le connaissent par cœur. Mais juste avant ça, je vais vous raconter une courte anecdote, une vraie anecdote. Alors, vous allez peut-être me trouver un petit peu simplé après ça. Mais c'est pas grave, j'assume. Alors fin décembre 2017, j'ai pris ma voiture un dimanche matin et j'ai pris l'autoroute A7 en direction de Valence. Alors à ce moment-là, j'habitais encore dans la région de Marseille et j'allais à Valence un dimanche matin pour assister à un culte parce que je savais que quelques mois après, j'allais déménager dans la région, donc je voulais assister à un des cultes d'une des églises dans le centre-ville. Donc je roule dans un froid hivernal, un mois de décembre, sur l'autoroute A7. Et donc je m'y engage, et il y a énormément de brouillard. Donc il y a un brouillard très épais, à couper au couteau, comme on dit, sur la route. Et c'est très 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 gênant. Du coup, je roule à 90 au lieu des 130 qui sont normalement autorisés, parce que je distingue très mal ce qui est devant moi, et je ne vois pas à 10 mètres, en fait, finalement. Alors, autant conduire sous la pluie ou dans la nuit complète, ça ne me dérange pas du tout, autant le brouillard me gêne énormément. Et je ne suis pas du tout à l'aise de rouler comme ça. Mais je n'ai pas le choix. Je suis sur une autoroute, et je ne peux pas m'arrêter pour faire demi-tour, je ne peux pas même rester sur la bande d'arrêt d'urgence puisqu'il y a un brouillard, c'est pas une raison suffisante. Donc j'avance, mais prudemment. Après plusieurs kilomètres, j'ai été très surpris par le changement radical de temps, puisqu'après ce brouillard long et pénible, je suis passé sur une portion d'autoroute complètement dégagée avec un soleil magnifique. Et c'était beaucoup plus agréable de rouler comme ça et de voir le paysage un peu plus loin, et non pas seulement les 2 ou 3 mètres qui étaient devant ma voiture. C'était aussi bien de voir les voitures qui me précédaient, pour ne pas rentrer dedans. Le ciel était bien dégagé sur cette portion d'autoroute, et pendant plusieurs kilomètres, et ensuite, à mon grand étonnement, l'épais brouillard est revenu, d'un coup d'un seul, et j'étais encore obligé de rouler un peu moins vite. Ensuite, c'était comme une succession de brouillard et de soleil permanent, comme si on passait d'un matin d'été à un crépuscule hivernal sur cette portion de la A7. Alors là où vous allez peut-être me trouver ça un petit peu simplé, c'est que j'ai trouvé ça assez surprenant, puisque c'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça, que je voyais une pareille chose. Et vous êtes peut-être habitué à ça, mais pour moi, c'était tout à fait nouveau et très soudain. Bref, je roulais donc sur cette autoroute, la A7, et j'enchaînais le brouillard et le soleil, le brouillard et le soleil. C'était assez déstabilisant, mais heureusement que je savais que ce chemin ne menait qu'à Valence, ou à Lyon, si je me trompais de sortie, éventuellement. Fin de la petite anecdote. Je vous invite maintenant à lire, à écouter, pardon, le psaume 23. Et nous allons lire tout le psaume, il n'est pas très long, 6 versets. Et je vais lire dans la version second. Donc psaume 23, versets 1 à 6. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors je vous disais que c'était peut-être un des psaumes, sinon le psaume le plus connu, peut-être même qu'en lisant, vous avez lu aussi dans votre tête, vous l'avez récité peut-être. C'est peut-être un des psaumes les plus connus par cœur. Alors, je pourrais peut-être même m'arrêter là, puisque ce psaume se suffit à lui-même. Ça nous ferait gagner du temps, on serait un peu plus tôt à la maison. Pardon. Ça sera entrecoupé de petites pauses mouchoirs, hein, désolé. Alors cependant, j'aimerais quand même profiter de ce temps pour partager avec vous ce que j'ai pu retenir de ce petit bijou de la parole de Dieu. Donc, je vous propose de voir à travers ce psaume la providence de Dieu face à la satisfaction de nous, êtres humains. L'homme, l'être humain, est difficilement satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il fait. Et c'est là la première partie que je vous propose d'aborder maintenant. David, dans ce psaume, il commence par cette phrase, cette confession de foi, « L'Éternel est mon berger ». Autrement dit, « Je suis », du verbe suivre, « Je suis mon Dieu et il me guide ». Alors, sans vouloir enfoncer une porte ouverte, je pense que vous pourrez faire le constat avec moi que bien souvent l'homme, par sa nature, a plutôt tendance à dire « je suis », du verbe être cette fois, « je suis mon berger ». Autrement dit, « je suis », toujours du verbe être, « je suis mon propre Dieu et je sais me guider tout seul ». Et si jamais je me perds, à la rigueur, Google est mon ami et peut m'aider à tout moment à me réorienter. À l'ère de l'individualisme et de l'indépendance, poussés à leur extrême, nous cherchons constamment à nous en sortir par nos propres moyens. Et même nous, qui sommes chrétiens, nous agissons aussi parfois comme ça, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Alors, ce n'est pas un comportement nouveau. Si on se rappelle d'Adam et Ève, ils ont voulu ressembler à Dieu. Ils ont voulu prendre leurs propres décisions, ils ont voulu agir selon leurs propres préceptes, puisque nous lisons par exemple dans Genèse chapitre 3, quand le serpent voulait convaincre Ève de manger du fruit défendu, il dit « Vous ne mourrez pas, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal ». Donc, de tout temps, l'homme a voulu son indépendance. Il accepte mal de devoir se soumettre à qui que ce soit. Quel est notre premier réflexe quand on fait face à une situation un peu soudaine et un peu brusque? Je pense qu'on cherche tout d'abord la meilleure approche, on cherche les meilleures solutions. Et je fais moi-même le constat un peu honteux que je ne me tourne pas premièrement vers Dieu pour lui soumettre la situation, et que parfois je m'attends plus à voir le fruit, le résultat de mes actions, en oubliant que c'est Dieu qui m'a permis de faire telle ou telle chose. D'un autre côté, nous pouvons aussi dire « L'Éternel est mon berger ». Oui, certes, mais je veux tout de même garder certains aspects de ma vie sous mon contrôle, parce que je pense que je peux mieux gérer. Ou alors, je pense que si Dieu s'en mêle, ça ne va pas forcément m'arranger. Alors, dans certaines situations de ma vie où je vois que Dieu est en train de bouger les choses, je peux prendre peur et je peux m'interposer, m'auto-investir en conseiller en disant « Seigneur, est-ce que ça ne serait pas mieux si tu faisais plutôt comme ci ou plutôt comme ça ?» Nous faisons comme des brebis qui diraient au berger où est-ce qu'il faut aller paître et par où est-ce qu'il faut passer. C'est un peu absurde, n'est-ce pas? Mais l'homme est ainsi fait. Un être insatisfait qui a soif d'indépendance et de solutions instantanées. Et pourtant, à l'inverse, dans ce psaume, David nous dresse ici un beau tableau d'une vie sous la protection de Dieu et sous la protection de Dieu seul. Alors après ce constat de la nature humaine, je vous propose maintenant d'aborder la providence de Dieu que David nous décrit dans ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors remarquez que le verbe de la seconde partie ici est au futur. Il y a ici non seulement une notion de don de Dieu, je ne manquerai de rien, donc le rien, sous-entendu, j'aurai tout ce dont j'aurai besoin, mais aussi de timing. Donc le Seigneur me le donnera en son temps. Je ne manquerai de rien. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur sait exactement quoi nous donner et quand nous le donner. Alors que parfois nous désirons autre chose, peut-être, et à un autre moment. Et souvent cet autre moment, c'est maintenant, tout de suite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après ce premier verset, David nous énumère des versets 2 à 5, tout ce qu'englobe ce « je ne manquerai de rien ». Alors David, qui est berger lui-même, nous décrit comment Dieu prend soin de nous en nous décrivant, plus ou moins explicitement avec toutes les images du berger et du troupeau, nous décrit tous les aspects de la vie d'un troupeau et de son pasteur, de son berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça décrit un Dieu qui pourvoit à nos besoins, aussi bien matériels que spirituels. Alors les pâturages pour le troupeau, c'est une source de nourriture. Notre corps, comme notre âme, ont besoin d'être nourris, n'est-ce pas ? Sinon on meurt. Et Dieu y pourvoit. Ça va même un petit peu plus loin parce que y a une notion de repos ici. Une bête qui se repose dans des pâturages, ce n'est pas une bête qui mange, c'est une bête qui est rassasiée, qui ont déjà assez mangé et qui sont soit en train de digérer, soit en train tout simplement de ruminer. Donc non seulement Dieu nous donne de la nourriture matérielle, physique et spirituelle, mais il nous permet aussi de nous reposer, rassasiés de mets, rassasiés de Christ. Repos dans les pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors on pourrait penser ici à un endroit rafraîchissant, loin du tumulte, loin des vents, loin des tempêtes qui peuvent nous déstabiliser. Alors oui, on ne sera pas toujours mis dans une bulle à l'écart de tout souci, mais le Seigneur peut nous donner une paix, cette paix dans la souffrance. Donc, près des eaux paisibles, j'ai la paix de Dieu, même si tout autour de moi, les choses ne sont pas toujours très calmes. Il restaure mon âme. Dieu revigore mon âme. Il répond aux besoins de ma foi et l'affermit. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu nous donne des directives pour nos vies de disciples. Un berger montre la voie à son troupeau, montre la voie à ses brebis, et il ne laisse pas chaque brebis prendre son propre chemin, sa propre voie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors, on peut tous traverser des moments d'épreuve, des douleurs qui peuvent parfois être, nous sembler, en tout cas inhumaines. Nous pouvons aussi tout simplement voir dans cette vallée de l'ombre de la mort la vie dans ce monde, la vie dans ce monde déchu. Dans un cas comme dans l'autre, souvenons-nous que Dieu est toujours là. Alors, on imagine mal un berger amener son troupeau, arriver dans un endroit un peu difficile, un peu escarpé, un peu dangereux, et abandonner son troupeau en disant « débrouillez-vous, moi je m'en vais ». On imagine mal un berger s'enfuir parce qu'il prend peur en traversant un endroit qui est un peu sombre. Alors, à plus forte raison, pourquoi est-ce que Dieu nous laisserait lorsque nous traversons ces zones de brouillard? Il est à côté de toi, il est à côté de moi. Tout comme une brebis s'abriterait à côté de son berger, abrite-toi auprès de ton Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, si vous connaissez un peu ce que c'est une houlette, c'est un bâton de berger, pas le saucisson, hein, mais un bâton, un vrai bâton, avec une partie recourbée. Donc c'est un outil en fait qui permet d'attraper une brebis par sa jambe, par sa patte, pardon, sans l'effrayer, et l'attraper d'un peu plus loin. Alors pourquoi l'attraper ? Pas tout simplement parce qu'il peut sortir du rang, il peut sortir du troupeau. C'est un outil aussi qui permet au berger, s'il y a une partie en fer au bout, de ramasser une pierre par terre ou une motte de terre et de la jeter sur une brebis. Tout simplement aussi pour la ramener dans le camp, pour qu'elle ne s'éloigne pas. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est un outil pour éviter que les brebis ne s'éloignent du troupeau. Gardons en tête que notre Père Céleste peut aussi nous corriger dans notre marche. Et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas tous, pas toutes, des brebis exemplaires. Et nous avons besoin parfois que le Seigneur corrige notre trajectoire. Le bâton, quant à lui, permet au berger d'éloigner les prédateurs, la houlette et le bâton. David continue ensuite en disant « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Alors, dans la culture orientale, apparemment, alors je l'ai appris, hein, je ne connaissais pas avant, lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, vos ennemis doivent rester dehors. Donc, vous mangez en paix. Pardon. Le temps que vous finissez, vous pouvez rester en paix. Sous la tente de votre hôte. Et nous aurions des contrariétés, puisque nous sommes dans un monde qui, majoritairement, ne suit pas le Seigneur. Mais nous avons un Dieu chez qui et avec qui nous pouvons tout simplement avoir cette communion et cette paix au milieu de l'adversité. Il nous donne cette paix que lui seul peut nous accorder. Tu oins d'huile ma tête. Alors si l'on reste uniquement dans l'image du berger et de ses brebis, le fait de mettre de l'huile sur une brebis apaise ses douleurs et soigne, cicatrise ses plaies. On peut y voir là le soin que le Seigneur porte à son troupeau. Mais il y a ici aussi la symbolique de l'onction du Saint-Esprit. Oui, tous ceux qui suivent le Seigneur et qui acceptent le Seigneur comme Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont le Saint-Esprit et sont dans cette communion avec Jésus. David finit ensuite par cette phrase au verset 5. Ma coupe déborde. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je pense que nous avons tous des exemples ici à citer de situations dans lesquelles le Seigneur a agi ou donné beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions. Si vous permettez, je vais juste relire ce psaume. Je me perds. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais conclure. Lorsque nous regardons de plus près ce psaume, nous voyons que tout au long du récit, il y a une constante. C'est Dieu, et par extension, Jésus-Christ, qui a dit lui-même, « Je suis le bon berger ». C'est lui qui conduit son troupeau, c'est lui qui le protège, c'est toujours lui qui le soutient, c'est lui qui le guérit, et c'est lui qui prend soin de son troupeau, du début jusqu'à la fin. La fin de ce psaume nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La fin de mes jours qui est aussi traduite dans certaines versions par à tout jamais. Nous savons que Jésus est là dans tout notre passage sur cette terre, mais aussi qu'il sera là à la fin de notre parcours, et nous savons qu'il sera aussi là pour nous accueillir dans l'éternité. Pour en revenir à l'image bien imparfaite que je vous ai donnée en début de message, sur cette route, je savais que j'allais en direction de Valence lorsque j'allais sur la A7. Alors qu'il y ait du brouillard, qu'il y ait du soleil, la finalité de mon trajet était toujours Valence. Alors peu importe ce que nous traversons ici-bas, les joies, les peines, l'abondance, le manque, le Seigneur veille sur nous, il nous accompagne dans notre marche et il nous attend. Il nous attend à la fin de notre parcours. Mais il y a une condition et une seule condition. C'est que nous fassions partie du troupeau et que nous puissions dire sincèrement, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel n'est pas encore ton berger, alors le reste de ce psaume ne te concerne pas. Par contre, il est encore temps pour toi de l'accepter. Amen.